Washington, la voix de l'Amérique. Vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Bonjour à tous et à toutes. Le Monde Aujourd'hui, édition du lundi 6 octobre 2014. Il est 6 heures temps universel. En direct de Washington, Idrissa Seboudia et Anne Albertson. Bonjour Anne.
Bonjour Idrissa, bonjour à tous.
Au sommaire de cette édition, Anne.
Aux États-Unis, le Libérien Thomas Eric Duncan est maintenant dans un état extrêmement grave. C'est le premier cas d'Ebola diagnostiqué aux États-Unis.
Au Niger, un deuil national de 3 jours décrété à la mémoire des soldats nigériens tués la semaine dernière dans le nord du Mali.
Et prière aussi au Mali pour ces soldats nigériens à l'occasion de l'Aïd al-Adha, la fête de la Tabaski.
En Somalie, les forces gouvernementales et de la MISOM reprennent Barawe, le dernier grand port qui était encore aux mains des Chebabs.
Les fonctionnaires ont pu accéder à leur bureau ce matin à Hong Kong, où les protestataires ont retiré certaines barrières à l'approche d'un ultimatum gouvernemental.
Au Brésil, il y aura un second tour d'Dilma Rousseff en ballottage à l'issue de la présidentielle d'hier.
Bébé Doc, Jean-Claude Duvalier, ex-dictateur haïtien, n'est plus. Il a succombé samedi à une crise cardiaque.
Et ne manquez pas la musique de Roger Muntou en fin d'émission. Pour l'instant, le journal. Aux États-Unis, où a été diagnostiqué le premier cas d'Ebola hors d'Afrique, l'inquiétude grandit malgré les efforts des autorités sanitaires pour rassurer le public. Idriss Fall.
Le docteur Tom Frieden, directeur des Centres de contrôle et de prévention des maladies, CDC, a dit hier avoir constaté une grande préoccupation dans le public, qui est compréhensible. Selon lui, avant le premier cas d'Ebola diagnostiqué au Texas, son organisme recevait 50 appels téléphoniques et courriels par jour et aujourd'hui en reçoit plus de 800 au quotidien. La peur est plus grande au Texas, où les autorités ont eu du mal à reloger les 4 personnes mises en quarantaine initialement dans l'appartement où avait vécu Thomas Eric Duncan, le seul malade de l'Ebola arrivé du Libéria. Son état est qualifié aujourd'hui de très grave. Depuis, plus d'une centaine de cas suspects ont été signalés, mais selon le docteur Frieden, aucun ne présente de symptômes. Samedi, un avion a été cloué sur le tarmac de Newark pendant 2 heures. Un passager avait vomi pendant le vol Bruxelles-New York. Et là encore, selon les services de santé, il s'agissait d'une fausse alerte.
Le Niger observe depuis hier un deuil national de 3 jours à la mémoire de 9 soldats tués vendredi dans le nord du Mali. Henri Francisque.
Selon l'AFP, les 9 soldats nigériens ont péri vendredi dans l'attaque la plus meurtrière contre les troupes de l'ONU au Mali depuis le déploiement de la MINUSMA en 2013. Selon un communiqué du gouvernement, 3 véhicules de l'armée nigérienne ont également été détruits à l'arme lourde lors d'une embuscade tendue par une 30aine d'hommes armés. L'armée malienne et la MINUSMA poursuivaient encore hier les recherches pour retrouver les auteurs de cette attaque attribuée au Mujao, le mouvement pour l'unicité et le djihad en Afrique de l'Ouest. La semaine dernière, l'ONU s'était inquiétée de la résurgence des djihadistes dans le nord du Mali, où depuis juillet 2013, une 30aine de casques bleus ont été tués, dont 10 Tchadiens, dans une série d'attaques le mois dernier.
Les troupes somaliennes et les soldats de la MISOM se sont emparés hier de Barawe, le dernier grand port qui était encore sous le contrôle des islamistes du groupe Al-Shabaab. Les précisions d'Issiakaba.
La chute de Barawe est un coup sérieux porté aux Chebab un mois après la mort de leur chef suprême, Ahmed Abdi Godane, tué début septembre lors d'une frappe américaine dans la province du Bachabel. Barawe, à quelques 200 km sud-est de Mogadiscio, était crucial pour le financement des islamistes somaliens. Il pouvait gagner jusqu'à 25 millions de dollars dans le commerce de charbon avec les pays du Golfe. L'opération dite Océan Indien, lancée fin août par les troupes de l'Union africaine et l'armée somalienne, a permis de reprendre une dizaine de localités dans le sud et le centre de la Somalie. Cependant, selon des spécialistes, les Chebab contrôlent toujours de vastes zones rurales et restent une menace importante pour la sécurité dans la région.
C'est aujourd'hui que doit s'ouvrir en Afrique du Sud le procès du millionnaire britannique Shriyan Dewani, accusé d'avoir ordonné le meurtre de sa femme pendant leur voyage de noces dans la ville du Cap en 2010, quelques jours seulement après leur mariage en Inde.
Dewani, qui est soupçonné d'avoir engagé Un tueur à gages pour abattre son épouse démontre toute implication dans sa mort. Il a été extradé vers l'Afrique du Sud après une bataille judiciaire de 3 ans.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
À Hong Kong, les fonctionnaires ont repris le travail aujourd'hui au siège du gouvernement, alors que semblent se calmer les protestations qui ont paralysé la ville pendant plus d'une semaine. Les manifestants ont permis aux travailleurs de passer sans incident à travers leurs barrières et puis le nombre des protestataires qui étaient dans les dizaines de milliers était tombé à des centaines pendant la nuit. Les autorités avaient donné jusqu'à lundi aux manifestants pour qu'ils dégagent les rues afin de permettre aux commerces, écoles et bureaux gouvernementaux de rouvrir.
Dimanche, les manifestants ont retiré certaines barrières qui bloquaient l'accès au siège du gouvernement situé au centre-ville et quitté le secteur. Mais les protestataires semblaient divisés, certains s'étant jurés de rester sur place. Les leaders étudiants disent tenir des pourparlers avec les responsables gouvernementaux en vue de discussions formelles avec la secrétaire générale de l'administration, Carrie Lam, qui a été choisie par le chef de l'exécutif, Leung Chun-ying, pour entamer les discussions avec les étudiants.
Au Brésil, la présidente Dilma Rousseff en ballottage, elle a recueilli plus de voix que ses adversaires à l'élection présidentielle d'hier, mais pas assez pour la majorité absolue. Le second tour est prévu pour le 26 octobre.
Madame Rousseff a été créditée de 42% des voix et le social-démocrate Aécio Neves de 34% environ. La présidente qui appartient au Parti des travailleurs jouit d'un grand soutien au sein de cette couche sociale grâce au programme de l'État-providence dont elle a hérité de son prédécesseur et parrain politique Lula da Silva. L'avance dont jouissait dans les sondages l'ancienne ministre de l'Environnement Marina Silva en août dernier ne s'est pas matérialisée.
Le chef du FBI, James Comey, affirme que la Chine est à la tête des pays qui s'adonnent à la cyberattaque contre l'industrie américaine, ce qui coûte des milliards de dollars par an. Monsieur Comey a déclaré hier dans une interview à la chaîne de télévision CBS que Pékin est extrêmement agressif dans ses efforts pour voler des secrets qui profiteraient à des entreprises et à son industrie.
Selon le patron de la police fédérale, le nombre d'attaques quotidiennes liées au piratage et au cyberterrorisme est tellement élevé qu'il est difficile à déterminer. Les Américains, a ajouté M. Comey, sous-estiment le danger de la cybercriminalité. Pour rappel, les États-Unis ont inculpé en mai dernier 5 experts militaires chinois pour vol et rendu furieuse la Chine qui a démenti pratiquer le piratage tout en accusant les États-Unis de faire de l'espionnage industriel.
Le décès samedi de l'ex-dictateur Jean-Claude Duvalier à l'âge de 63 ans a laissé les Haïtiens dans une apparente indifférence, Henri Francisque.
Hier dimanche, au lendemain de sa mort, aucun rassemblement n'était organisé dans les rues de Port-au-Prince, où l'ancien président à vie est décédé suite à un malaise cardiaque. Pas de foule, ni des larmes pour celui qui a régné d'une main de fer pendant 15 ans sur Haïti. Aucune date n'est encore fixée pour ses funérailles. Le président Michel Martelly a salué le départ d'un authentique fils d'Haïti. Bébé Doc avait succédé à son père François Duvalier à l'âge de 19 ans. Il était accusé de torture et de nombreuses exécutions extrajudiciaires et était visé par une enquête de la justice haïtienne pour crimes contre l'humanité et détournement de fonds publics. Plusieurs associations de défense des droits de l'homme ont rappelé que sa mort n'empêche nullement le maintien des poursuites engagées contre lui et son régime.
Voilà pour le journal. Merci Anne Albertson. Washington, la voix de l'Amérique. En République démocratique du Congo, les réfugiés et demandeurs d'asile à Goma, capitale du Nord Kivu, se plaignent de la lenteur que le gouvernement congolais met dans le traitement de leurs dossiers. Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le HCR, aurait même arrêté son assistance humanitaire en attendant qu'il soit en règle avec le gouvernement de Kinshasa. De Goma, notre correspondant Primo Pascal Rudahigwa.
Ils sont en majorité des Burundais et quelques Rwandais qui s'inquiètent du fait que le HCR a arrêté l'assistance humanitaire en leur faveur. Ndayisaba Sadi, qui est le président de ces réfugiés et demandeurs d'asile qui vivent à Goma.
Les appuis qui ont été coupés sont l'éducation, les soins médicaux. Cela est dit au manque de statut de réfugié. Le problème se situe au niveau du gouvernement congolais qui retarde le processus de détention des statuts de réfugié.
L'appui du HCR que recevaient ces demandeurs d'asile n'était qu'une faveur interrompue suite aux contraintes budgétaires. C'était une assistance provisoire en attendant l'aboutissement de leur dossier.
Le HCR, lui, appuie le réfugié. Et il appuie le demandeur d'asile dans la durée de 3 à 6 mois. Au-delà de 6 mois, le HCR a le droit de couper son assistance. Il suppose que le gouvernement aurait déjà accordé le statut de réfugié.
Interrogé à ce propos, Laïngou Lianjewa, coordonnateur et chef d'antenne de la Commission nationale pour les réfugiés au Nord-Kivu, appelle les demandeurs d'asile à la patience. Un plaidoyer serait en cours pour décanter cette irrégularité.
Ce qui concerne les demandeurs d'asile à la ville de Goma, nous avons mis toutes les batteries en marche pour que leur statut sorte. À notre niveau, à la province, nous constituons leurs dossiers que nous envoyons à Kinshasa. Des dossiers que nous avons envoyés, il y en a qui ont eu le statut de réfugié. Il y en a dont les dossiers ont été rejetés, mais le rejet du dossier est toujours suivi d'un droit au recours. Pour le recours, il faut qu'ils aillent à la Commission nationale d'éligibilité. Mais comme ils n'ont pas les moyens, nous avons déjà fait un plaidoyer au niveau de Kinshasa pour que la Commission de recours fasse un travail à foraine ici au niveau de la province.
Combien de temps le processus d'acquisition du statut de réfugié va-t-il prendre? Rien n'a été révélé à ce sujet. Goma, Primo Pascal Rudaigua pour La Voix de l'Amérique.
Retrouvez La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Mungano à Beni, au Nord Kivu, sur 95.10 FM.
1% de l'argent de l'or pour sortir les communautés de la pauvreté. C'est le nom de la campagne lancée au Burkina Faso par la coalition Mine Alerte, organisation de la société civile à l'endroit des députés burkinabés qui vont voter la loi sur le nouveau code minier du Burkina. Dans ce projet de loi, l'État prévoit la création d'un fonds de développement local. Il y met 15% de ses recettes. Quant aux sociétés minières, il leur est demandé de donner 1% de leur chiffre d'affaires annuel. Elle propose, elle, 0,5%, soit la moitié. Cette campagne vise ainsi à faire pression sur les députés afin qu'ils suivent l'État et non les sociétés minières. Reportage de notre correspondant à Ouagadougou, Zoumana Wonogo.
Il y a quelques années de cela, la coalition Mine Alerte Burkina lançait la campagne « Où est mon or ?» Publier ce que vous payez. Cela a abouti au rapport ITIE, Initiative de transparence dans les industries extractives. Et revoilà la coalition lançant encore une autre campagne, intitulée cette fois-ci 1% de l'argent de l'or pour sortir les communautés de la pauvreté. Écoutons les explications de Jonas Yen. Il est le président de la coalition.
Il ne suffit pas de savoir ce qu'on gagne. Il est important aussi de savoir comment on dépense ce qu'on gagne. C'est dans ce sens que dans la relecture du code minier burkinabé, le gouvernement a prévu créer un fonds qu'on a appelé fonds de développement local. Dans le cadre de l'alimentation de ce fonds, l'État a sa part de contribution et aussi a demandé une part des sociétés minières à raison de 1% de leur chiffre d'affaires annuel. Alors, les sociétés minières n'ont pas accepté le pourcentage demandé, mais propose plutôt 0,5%, qui à notre sens ne signifie pas grand-chose, donc nous avons lancé une autre campagne pour dire oui, nous sommes d'accord avec ce que l'État a proposé et nous attirons l'attention des sociétés minières par rapport à ce qu'elles gagnent et par rapport aux problèmes que vivent les communautés et surtout notre campagne est orientée vers les députés à qui le projet de loi va être soumis bientôt et comme c'est eux qui ont le dernier mot, nous leur disons, attention, vous avez des populations qui vous ont envoyé à l'Assemblée. Aujourd'hui, ces populations-là connaissent un problème de développement. Elles vivent des situations difficiles du fait des opérations minières. Maintenant, on leur demande de contribuer. Elles trouvent que c'est trop. Nous pensons au contraire que c'est le minimum qu'on puisse leur demander. Et comme c'est vous, députés, qui avez le dernier mot par rapport à ce nouveau code minier qui va venir, on attire votre attention pour que vous puissiez voter ce code minier en tenant compte de 1% que l'État avait proposé en lieu et place de 0,5% que les sociétés minières proposent.
Quelle chance de succès a cette campagne face à la puissance financière des sociétés d'exploitation minière et aussi les possibilités de corruption qu'on connaît sous nos tropiques? Voici ce qu'en dit le président Jonas Yen.
Nous avons confiance et nous faisons confiance aussi à nos députés. Et nous aimons à dire, si vous votez une loi aujourd'hui qui va vous servir de corde au cou dangereux pour demain, c'est à vous de faire le choix. En tout cas, nous leur faisons confiance pour que ce code minier-là soit adopté avec le pourcentage demandé par l'État, puisqu'il est dit que l'or appartient à tous les Burkinabés. Si l'or appartient au peuple burkinabé, il n'y a pas de raison que ça brille pour une partie de ce même peuple et que ça noircisse une autre partie du peuple. Si l'or doit briller, que ça brille pour tous les Burkinabés.
Zoumana Onogo, Ouagadougou, La Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Paix, réconciliation nationale, stabilité, tels sont les différents thèmes qui ont dominé les sermons des imams lors de la fête de la Tabaski, célébrée hier au Mali comme dans plusieurs autres pays d'Afrique de l'Ouest. Parallèlement à l'Aïd el-Kébir, qui commémore le sacrifice d'Abraham, les Maliens préparent aussi la rentrée scolaire 2014-2015, une rentrée prévue ce mardi 7 octobre, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Le président de la République a participé à la prière de Tabaski au niveau de la grande mosquée de Bamako. Ibrahim Boubacar Keïta en a profité pour lancer un appel à l'union autour du Mali.
En ce temps où le monde prend conscience de la force du rassemblement, ce n'est sûrement pas le temps de nous diviser, de nous émietter. Quand on voit que les États-Unis d'Amérique se sont liés au Mexique et au Canada dans l'ALENA, l'Alliance de libre-échange nord-américain, c'est dire que l'union fait la force. On a toujours dit, dans le cadre des pays africains, singulièrement le Mali, c'est encore plus fort et plus vrai. Je prie Allah subhanahu wa ta'ala pour que ce qui est en cours en Alger prospère au seul bénéfice du Mali, de la paix, de la concorde dans ce pays et de sa prospérité future.
La ville de Tombouctou n'est pas restée en marge de cette activité. Elle a organisé une grande prière sur la place publique dirigée par l'imam de la grande mosquée de Tombouctou, Abdrahman Ben Essaouti.
Nous invitons les gens à la retenue et à la tolérance. La situation qu'on a traversée, ce n'est pas d'un coup de baptême magique qu'on pourra évidemment résoudre tous les problèmes. Je suis très optimiste par rapport en tout cas à une meilleure situation de cette situation qui prévaut chez nous.
À côté de la fête de Tabaski, les parents d'élèves préparent la rentrée scolaire prévue pour ce mardi 7 octobre au Mali. Pour le moment, il n'y a pas d'affluence du côté des vendeurs de fournitures scolaires.
S'il faut acheter les fournitures scolaires et les nécessaires pour la fête, cela n'est pas facile. Si les autorités pouvaient repousser la date de la rentrée scolaire, cela nous ferait énormément plaisir. Les parents d'élèves sont obligés d'acheter les fournitures scolaires. Je suis sûr que nous allons écouler nos marchandises. Pour le moment, il n'y a pas de clients. Fête de Tabaski et rentrée scolaire au même moment jouent énormément sur notre chiffre d'affaires.
Certains parents ont préféré acheter les fournitures scolaires, n'ayant pas de moyens pour acheter les moutons.
On est obligé de prioriser. Le plus important pour moi, c'est d'acheter les fournitures scolaires pour les enfants.
En tout cas, la rentrée scolaire ne se fera pas de façon effective à partir de ce mardi, car il y a beaucoup de réglages à faire au niveau du ministère de l'Éducation nationale, Bamako. Kassim Traoré, La Voix de l'Amérique.
À Gao, la fête s'est déroulée dans le calme et dans un contexte particulier sous l'œil vigilant des forces de sécurité. Les 9 soldats des casques bleus du contingent nigérien tués dans la région à Niliman, entre la ville de Menaka et Ansongo, ont été au centre des prières de cette fête musulmane, nous dit notre correspondant sur place, Boubacar Touré.
Tôt ce dimanche matin, les musulmans ont pris d'assaut la place Chikenchor pour la prière de l'Aïd el-Kébir. Parmi ce beau monde figure Abdoulaye Abdi, un déplacé qui a signé son retour.
Moi et ma famille, on a trouvé les gens vraiment disponibles. La vie reprend. Elle n'est pas jusque-là parfaite, mais l'espoir est là. Le grand monde que je vois me donne vraiment espoir que ça va beaucoup marcher. Le prix du mouton a coûté très cher. Bon, les autorités n'ont pas pensé à ça jusqu'à aider les population. Les gens se font de bons souhaits, des bénédictions. Tous les souhaits sont liés à la santé et à la paix.
Le maire de la commune urbaine de Gao, Sadou Harna Diallo, a saisi cette occasion pour adresser au gouvernement du Niger et au peuple nigérien toute sa compassion.
Je m'incline devant la mémoire de nos frères nigériens qui ont perdu leur vie pour une cause noble. Je présente toutes mes condoléances au nom de toute ma population. avant de dire quoi que ce soit. Et que Dieu veille sur leur âme, Dieu veille sur leur famille qu'ils ont laissée. Toute ma compassion pour le gouvernement nigérien. Que la terre leur soit légère. Amen. Nous, en tant qu'élus, nous témoignons de tout l'effort que fait les pays voisins de l'Afrique, de l'Occident. Le monde entier souffre pour le Mali. Que Dieu exauce le vœu de ces hommes-là.
Dans les mosquées et les places publiques où on a fait la prière, les musulmans ont eu une pensée pieuse aux soldats de la mission onusienne tombés sur le champ d'honneur au nom de la paix au Mali. Boubacar Touré pour la Voix de l'Amérique.
La Voix de l'Amérique, 24 heures sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Ici aux États-Unis, à moins d'un mois des élections de mi-mandat, les républicains sont persuadés de pouvoir contrôler le Sénat et la Chambre des représentants. Les résultats de quelques circonscriptions détermineront quel parti sera majoritaire dans les deux chambres, ce qui aura un impact significatif sur les dernières années du mandat, du second mandat du président Obama à la Maison-Blanche. Les précisions de Michel Joseph.
Les Américains iront aux urnes le 4 novembre pour renouveler l'ensemble de la Chambre des représentants et le tiers du Sénat. La faible cote de popularité du président Obama, combinée aux inquiétudes des Américains au sujet de l'économie nationale, prépare le terrain à une vigoureuse prestation des républicains aux élections de novembre. Dans l'espoir de s'en tirer, plusieurs sénateurs démocrates en difficulté dans leur circonscription ont pris leur distance vis-à-vis du président, relève l'analyste Charlie Cook. Sur quoi portent les élections de mi-mandat, en particulier celles du second mandat? Elles sont un référendum sur le président sortant. Je vais utiliser un terme technique ici, c'est un mauvais contexte politique pour les démocrates. Deux ans après la réélection du président Barack Obama, les spécialistes s'accordent à reconnaître que les républicains ont l'avantage. Ils devraient, selon les prévisions, maintenir ou étendre leur majorité à la Chambre des représentants. La question qui demeure est de savoir s'ils pourront également effectuer une poussée en novembre pour gagner au moins 6 sièges au Sénat, ce qui leur permettrait d'arracher le contrôle de la Chambre haute. Il est trop tôt pour le dire, estime Tim Carlin Bowman de l'American Enterprise Institute. Je ne suis pas sûr que nous verrons une vague géante qui profiterait aux républicains. De toute évidence, ils arracheront quelques sièges au Sénat, mais il est prématuré de dire s'ils en auront assez pour en prendre le contrôle. Qu'à cela ne tienne, de plus en plus de spécialistes croient que l'opposition a plus que jamais des chances de reprendre le Sénat. John Fortier, du Centre bipartisan de politique de Washington, est du nombre.
Midterm elections tend to be a little bit more of a Republican election.
Les élections de mi-mandat ont tendance à être un peu plus républicaines. Les républicains sortent en plus grand nombre. Il y a moins d'afflux aux urnes que lors des présidentielles. Pour toutes ces raisons, je pense que le vent tournera en leur faveur. Le stratège républicain Neil Newhouse reste tout de même prudent. Côté démocrate, on relève quelques points positifs pour le président Obama en rapport avec sa décision de frapper les djihadistes de l'État islamique en Irak et en Syrie. Le moins qu'on puisse dire est que les empoignades entre républicains et démocrates se poursuivront jusqu'aux élections de novembre.
Tous les lundis soirs, la Voix de l'Amérique met le sport à l'honneur. Les résultats, les analyses et vos commentaires, chers auditeurs, en direct à 19h temps universel. Pour intervenir, c'est très simple. Laissez vos messages sur la page Facebook de Sporama ou par mail à fr@voanews.com. À très vite sur le terrain de la Voix de l'Amérique.
Et maintenant, la musique de Roger Montou. Salut Roger.
Bonjour Idrissa. Ce matin, nous écoutons la belle voix de Smokey Robinson, leader du groupe The Miracles. Il est l'un des principaux artistes du label Motown, notamment grâce au titre Tears of a Clown. On l'écoute dans Baby Baby Don't Cry.
Nothing so blue as a heart in pain. Nothing so sad as a tear in vain. So.
Smokey Robinson forme le groupe vocal The Miracles en 1954 au lycée avec trois camarades.
Oui, les trois amis s'expriment dans le style doo-wop en vogue à cette époque. Ils sont repérés par le grand Berry Gordy en 1958 qui leur fait enregistrer leur premier titre « Got a Job » chez End Records. Mes parents, Idrissa, adoraient cette chanson. Ma mère ne faisait que parler de Smokey à la maison, ce qui rendait mon père un peu jaloux, je dois le dire.
Smokey Robinson, « Baby, baby, don't cry ». Merci Roger.
De rien Idrissa, je salue les amis de Jikoroni Para à Bamako.
Roger Moutou, retrouvez-le dans le RM Show à 20h temps universel.
Salut les amis, Roger Moutou, la voix de l'Amérique. Restez branchés chaque lundi dans l'émission RM Show entre 20h et 21h, temps universel. Au menu, le top 10 American Music, les nouveautés de la musique américaine. Ne ratez pas votre émission interactive. RM Show vous dit Peace Africa.
Le Monde aujourd'hui sur la Voix de l'Amérique en direct de Washington. Voilà, c'est tout pour cette édition matinale. Merci à Anne Albertson pour le suivi de l'actualité et la mise en onde. Un grand merci à toute la rédaction. Idrissa Sedoudia à Washington. Bonne journée à l'écoute de la Voix de l'Amérique.
Pour les dernières nouvelles en Afrique, aux États-Unis et ailleurs dans le monde, retrouvez-nous sur Internet, Facebook et Twitter. Washington, la voix de l'Amérique.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.